106.9, Mauricie. Que la Mauricie se lève. Voici Patrick Lagacé.
Salut Patrick.
Salut Catherine.
Penses-tu que la menace est réelle? Est-ce que tu penses que 19h à soir, bonsoir les gens de Bell, on enlève le signal? Penses-tu que c'est une menace qui est crédible?
Moi, je n'y crois pas.
Non?
Non.
Mais
non, je pense que c'est un bluff. Parce que si Québécois fait ça, c'est vraiment... C'est pas une déclaration de guerre à Bell, c'est une déclaration de guerre au CRTC.
Oui.
Puis le CRTC, c'est l'organisme réglementaire extrêmement important dans l'écosystème médiatique de la télé, de la diffusion par câble, etc. Si tu veux te mettre le CRTC à dos, ce qui n'est pas une chose facile, là, selon ce que je comprends, là, le CRTC est assez bon dans la neutralité. Là.
Ouais.
Si tu veux te mettre le CRTC à dos, ben, de ne pas respecter une de ces décisions comme ça, là. Lundi, le CRTC a dit non, a rappelé que tu ne peux pas, dans un litige semblable entre deux compagnies, tu ne peux pas retirer un canal comme Québécois menace de le faire. Fait que si tu veux faire ça, les conséquences sont tellement graves. Moi, ça me donne à penser que c'est un bluff, c'est une stratégie de négo.
Mais hier, là, je lisais l'article de Stéphanie Grandmont dans la presse, puis c'était représentatif de ma compréhension de ce que je pensais. Parce que, puis dis-moi si je me trompe, en rejetant le blâme sur Bell, Québécois fait le pari, dans le fond, que les téléspectateurs vont migrer vers son propre télédistributeur. Bon, on a vu avec Je l'appelle de Richard que ce n'est pas nécessairement le cas. Mais explique-moi, Patrick, tu sais, TVA Sports, ils perdent déjà de l'argent, c'est déjà déficitaire. Pourquoi se priver des abonnés de Bell? Je comprends qu'ils veulent plus de redevances, mais je ne la comprends pas, leur stratégie.
Je vais t'avouer, moi non plus, je ne la comprends pas, Catherine.
Bon, OK.
mais regarde, Québécois joue comme ça. Quand Québécois n'est pas content de comment l'Académie des Gémeaux traite les productions de Québécois, ben, on sortait pendant plusieurs années.
Ouais.
Quand Québécois n'est pas content des décisions du Conseil de presse, on sortait du Conseil de presse. Il y a plein d'exemples comme ça. Écoute, est-ce que ça les dessert? C'est une grande compagnie qui est richissime, qui produit de la valeur. Donc, si tu regardes juste par ce prisme-là, ça fonctionne. Là, ce que je perçois, OK, puis je te l'avoue, là, moi, j'ai toujours dit que les médias sociaux, des fois, c'est un bon reflet de ce que la population pense, puis des fois, les médias sociaux, c'est pas un bon reflet.
Ouais.
Ce que je voyais hier sur Twitter, c'est des gens qui disaient, écoutez, j'aime pas l'attitude de Québécois dans cette affaire-là. La menace, ça me dégoûte. Donc, oui, il y a des gens qui disaient, bon, mais je vais changer de câble au distributeur. Mais tu le sais comme moi, puis les gens qui nous écoutent le savent, c'est extrêmement difficile de changer de câble au distributeur.
Sauf qu'il y a
bien du monde qui disait, savez-vous quoi? Je vais annuler mon abonnement à TVA Sport et je vais prendre Sportsnet, la chaîne anglophone de Rogers. Et je vais avoir les mêmes gains.
Exact. Ben oui.
Ben, écoute, moi, regarde, Québécois peut bien avoir la stratégie que Québécois choisit. Tu comprends? À partir de là, ça, c'est une chose. Mon reproche, là, c'est sur le libellé, la façon dont on a écrit le message.
Ouais.
Moi, je suis même pas d'accord avec l'idée de mettre un message comme ça pour passer un message commercial, OK?
Mm-hmm.
Mais de dire que Bell vous punit et le signal va être brouillé, hey, écoute, c'est parce que c'est pas vraiment ça le fond de l'histoire. Puis quand les gens commencent à s'y intéresser, quand tu lis le message, c'est comme si TVA Sport allait être brouillé du signal par une décision de Bell.
Ah, c'est
tu peux penser
ça. Exact, t'as raison.
Mais c'est pas ça du
non,
tout.
C'est pas ça
quand tu fouilles un peu, quand tu grattes, tu vois qu'il y a non. C'est une menace des propriétaires de TVA Sport.
Ouais.
Ça, moi, mon reproche est là-dessus. Que le message qui est envoyé aux gens dit, c'est pas vrai.
Ouais, parce que en complément de ce que Richard nous racontait là, tout juste avant ta chronique, Jean vient de m'écrire, m'envoyer ce qu'il a reçu de Bell. Il dit, Catherine, voici ce que j'ai reçu dans les dernières heures. Québécois, propriétaire de Vidéotron et de Groupe TVA, veut illégalement retirer l'accès à sa chaîne TVA Sport aux clients de Bell Télé. C'est contre la loi. Le lundi 8 avril, le CRTC a émis une directive exigeant de Québécois de continuer à fournir la chaîne aux clients de Bell Télé. Soyez assurés que Bell mettra tout en œuvre pour que Québécois respecte la loi en matière de télédiffusion. Bell poursuit son engagement à protéger vos droits d'accès à la programmation de votre choix. Et tu vois, ça rentre. Les auditeurs m'envoient ça. Donc, ça se passe pas de même. Là. Patrick, ce soir, 19h, du Québécois, puis c'est pas une décision qui leur appartient. De dire, bonsoir, nous autres, on vous enlève le signal. Ça marche pas de
non,
même.
Non, mais c'est-à-dire que la décision leur appartient.
OK. Mais c'est contre toi, la loi, c'est ça?
Non, mais toi, Catherine, t'es pas censé de traverser en voiture sur un feu rouge.
Ouais, OK.
Mais tu peux le faire.
Il y a ça.
Puis après ça, il y aura peut-être des conséquences ou il n'y en aura pas. La différence ici, c'est que toi, t'as beaucoup de chance qu'un policier ne voit pas. Mais le policier du CRTC, c'est absolument certain, à 150%, qu'il va voir TVA Sport disparaître du signal des abonnés de Bell.
Ouais. OK. Oui. On va parler un petit peu de Justin Trudeau. Ça fait quelques jours qu'on veut s'en parler, mais là, l'actualité, ça a bougé pas mal. Bon, là, on savait qu'Andrew Scheer a défié Justin Trudeau de donner suite à sa menace de le poursuivre pour avoir affirmé que le premier ministre s'était ingéré dans les procédures judiciaires de SNC-Lavalin. À voir. Puis je voyais cette semaine, c'est un article dans quel journal anglophone ou dans quel magazine, Patrick, rappelle-moi, il y a eu quelque chose de très dur à l'endroit de Justin Trudeau.
Ah oui. Bien, en fait, c'est symbolique parce que c'était dans le magazine américain The Atlantic.
Oui, c'est ça.
Et sous la plume de David Frum. David Frum, c'est un Canadien, je pense qu'il a été naturalisé américain, là, qui a travaillé pour l'administration de George Bush, qui est maintenant analyste, qui écrit des livres, etc. Et lui a dressé un portrait très critique du premier ministre, qu'il décrit d'abord comme manquant beaucoup de jugement. Ensuite, colérique, là, ce qui est un peu contesté là, de ceux qui connaissent Trudeau quand même. Là.
Ouais.
Mais là où c'est intéressant, c'est que l'image extrêmement positive de Justin Trudeau à l'étranger, extrêmement positive, disons, dans les cercles plus progressistes dans les pays étrangers, ben, elle commence à se faire piler dessus, cette image-là, tu comprends?
Ouais, ouais.
Donc ça, il y a une valeur de symbole là-dessus, et ça survient évidemment au moment où, moi, je trouve que Justin Trudeau est en train de l'échapper. La menace de poursuivre Andrew Scheer, c'est fou, parce que, d'abord, dans la vie politique, surtout entre chefs, c'est supposé d'être dans l'arène politique que tu règles tes problèmes.
Ouais.
Là, quand Justin Trudeau menace de poursuivre Andrew Scheer en diffamation, il y a un élément que Justin Trudeau a probablement oublié. C'est le suivant. Écoute, si moi je décide de te poursuivre, Catherine, toi, tu vas pouvoir me poser des questions sous serment.
Ouais,
est-ce que Justin Trudeau veut vraiment répondre à des questions sous serment à propos de sa gestion de l'affaire de SNC-Lavalin? Moi, à voir la vitesse à laquelle ces versions ont évolué, changé, se sont auto-contredites, je suis pas sûr qu'il veut témoigner sous serment Justin Trudeau.
Excuse-moi, Patrick, on t'a perdu.
Ah, excuse-moi.
OK, j'ai juste raté la fin, je m'excuse, Patrick.
Oui, non, ce que je te disais, c'est quand tu vois la vitesse à laquelle les versions de Justin Trudeau ont changé, je suis pas certain que Justin Trudeau veut témoigner en cours sous serment à propos de SNC-Lavalin.
Mais Patrick, je te pose la question. Quand tu dis, tu penses qu'il est en train de l'échapper, vas-tu jusqu'à dire qu'on est en train de se rendre compte peut-être qu'il passera pas au travers, c'est-à-dire que ça se pourrait qu'il soit pas premier ministre dans quelques mois?
Moi, là, depuis le printemps 2011, depuis que le NPD a quasiment éradiqué le Bloc, gagné le Québec, décrocher l'opposition officielle, j'en fais plus de prédictions parce qu'au début de cette campagne-là, Catherine, en 2011, personne n'aurait prédit ça.
Non.
Sauf que ce qu'on voit, c'est jour après jour, le scandale de SNC-Lavalin est peut-être difficile à comprendre. Mm. Mais jour après jour, ce qui ressort des analyses, c'est que Justin Trudeau a bien de la misère à jongler avec tous ces plats-là.
Ah,
tu comprends?
Ça. Ouais, ouais.
Ça, là, pour les prochains mois, cette perception-là, elle risque de s'incruster. Est-ce que Justin Trudeau est à la hauteur du poste de premier ministre et toutes les responsabilités qui viennent avec? Ça peut y faire mal. Présentement, c'est en train de faire mal.
Ah, hey Patrick, je me permets-tu de te garder encore une minute? Je veux te faire entendre un extrait. Tout à l'heure, j'ai fait une entrevue avec Jocelyne Bournival-Quentin, qui est une femme de la région dont la mère est décédée d'Alzheimer. Puis ça l'a touché ton texte, puis l'entrevue qu'on a fait, puis le fait d'en reparler. Parce qu'eux autres, elles ont vécu un peu la même chose que l'histoire de Michel Cadotte. Et voici un extrait de ce qu'elle nous racontait tout à l'heure.
On sait qu'il le manifestait un petit peu par de la fatigue et puis un petit peu de frustration parce que vous avez vécu ça des fois dans la vie quand un enfant est malade puis qu'on dit « je prendrais tellement sa souffrance pour pouvoir le soulager ». Et je pense que c'était sa situation à lui, puis ça a peut-être été la situation de M. Cadotte. Passer des années en prison, prendre sa souffrance pour pouvoir l'alléger. Écoutez, là, c'est quelque chose que je lance en l'air de même, là.
Ouais.
Mais je pense que mon père aurait peut-être été comme ça. Parce que c'était vraiment pas facile. On n'était pas là tout le temps autour de lui. On avait d'abord la moitié de la famille à ce moment-là vivait à l'extérieur de la ville. On faisait ce qu'on pouvait. On avait des jeunes enfants. Mais il aurait pu, de sa personnalité à lui, fait qu'il l'a pas fait. Mm. Mais peut-être qu'il aurait pu la faire s'il avait vu souffrir énormément ou si... probablement, mais moi, la chose, c'est pas la question que je me pose. Je me demande pas, l'aurait-il fait, l'aurait-il pas fait. Mm. J'ai une chose, c'est qu'on n'aurait pas été, on ne l'aurait pas blâmé.
OK. Alors voilà, donc c'est ce que Jocelyne nous racontait. Puis évidemment, bon, c'est leur vécu familial. Mais sais-tu où ça m'a touché beaucoup, Patrick? Elle a dit à un moment donné dans l'entrevue, elle a dit « c'était plus notre mère à la fin. C'était une personne en souffrance qui n'était plus notre mère. » C'est un peu ça. Puis évidemment, c'est leur vécu. Mais je voulais quand même te le faire entendre parce que c'est touchant tout ça. Il y a plein des gens qui vivent avec des gens qui ont la maladie d'Alzheimer. Eux autres, ils l'ont vécu pendant 17 ans. Alors je voulais quand même te le faire entendre. Je ne sais pas si tu avais un commentaire à faire.
Wow! Ouais. Ben écoute, je pense que chaque cas, chaque façon de vivre ça en famille est différent, mais ce que tu racontes là, ça ressemble à toutes les histoires que moi j'ai entendues.
Ouais.
Et puis, tu sais, il y a quelque chose à dire sur la résilience des gens qui sont autour quand même, là, ouais. Parce que cette souffrance-là qui peut te pousser à peut-être penser à tuer le proche, l'immense majorité des gens vivent avec surmonte ça, tu comprends?
Absolument.
Et ça te montre à quel point c'est tabou de tuer quelqu'un parce que l'immense majorité des gens ne fait pas ça. Puis je suis pas en train de te dire que Michel Cadotte, là, il est à blâmer parce qu'il l'a fait. T'sais. Il est à blâmer au sens judiciaire, tu comprends? Ouais. Moralement,
ouais.
C'est entre lui et ses proches, là.
Ouais.
Mais c'est pas tout le monde qui le fait. C'est sûr qu'il y a une réflexion, tu sais, il y a une réflexion à avoir sur c'est quoi la notion de proche aidant.
Ouais.
Comment ces gens-là doivent être soutenus par le système, mais ça va toujours être dur.
Ouais, absolument.
Dans le débat qui entourait le procès de Michel Cadotte, des fois, j'avais l'impression qu'on se disait, hey, si le système était à 100% parfait, probablement que les proches aidants ne souffriraient plus, ne seraient plus épuisés. Je pense que ça va toujours être souffrant et ça va toujours être épuisant.
Merci, Patrick. On s'en reparle demain.
Salut.
Salut, bye-bye. Patrick Lagacé. Du lundi au jeudi, entre 7h15 et 7h25. Et j'ai le goût de rajouter à ça, c'est peut-être pas tout le monde qui le ferait. Mais je pense que plusieurs d'entre eux y ont peut-être pensé.